bienvenue à l'émission des Apatrides Anonymes en direct des studios de choc.ca en ce 27 juin 2019. Nouvelle plage horaire pour notre émission. Nous étions le dimanche de 15h à 16h. Nous sommes maintenant les jeudis de 18h30 à 19h30. Donc, c'est Mathieu au micro en compagnie de Marie-Ève.
Bonjour, Mathieu.
Et Simon, qui est à la mise en onde pour l'instant, mais qui va... Allô! Qui va nous parler, évidemment, tout à l'heure. On est trois dans ce petit collectif. Donc, les Apatrides Anonymes, pour ceux et celles qui connaissent moins, ben, une émission qui traite des enjeux locaux, nationaux et internationaux en lien avec le racisme, la sécurité nationale et l'immigration, les frontières. Donc, c'est notre septième émission, si je ne me trompe pas. On a commencé au printemps dernier. Donc, pour tout l'été, on sera là les jeudis à 18h30 et en balado-diffusion en tout temps sur le site de choc.ca et sur notre site Internet dont on vous donnera les coordonnées à la fin de l'émission. Donc, aujourd'hui à l'émission, dans le menu, nous avons un assez long reportage sur la marche annuelle de Solidarité sans frontières qui a eu lieu il y a presque deux semaines. Donc, on a fait un montage avec des voix, des sons, des entrevues. Il y aura aussi des actualités internationales en lien avec les nouveaux chiffres sur les réfugiés dans le monde qui sont sortis il y a quelques jours. Il y aura aussi la bonne nouvelle de la semaine avec Marie-Ève. Et on va commencer dans quelques instants avec la minute coloniale en lien avec les stérilisations forcées. C'est Simon qui va nous présenter ça. Donc, on commence l'émission avec quelques notes de musique et ensuite, c'est la minute coloniale. C'est l'émission des Apatrides Anonymes.
Les Apatrides Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. L'Empire britannique doit énormément à Geoffrey Amherst, ce grand personnage historique que l'on tente d'effacer de nos mémoires. Indeed, Lord Amherst, né dans le Kent en 1717, est le général qui a permis à l'Angleterre de kicker out les Français de l'Amérique du Nord et de dissoudre la Nouvelle-France. Alors que Wolfe, dont Amherst est le mentor, a battu Montcalm et pris Québec, Amherst donne le coup fatal en prenant Montréal en 1760, en coordonnant admirablement bien trois armées différentes de dizaines de milliers de soldats, qui arriveront du Saint-Laurent, à l'est et à l'ouest, et du Richelieu, qui brûleront tout sur leur passage, maisons, fermes, villages, un grand ménage très propre. Cette attaque de Montréal, parfaite et précise, est à l'image de Amherst, ce très fin stratège militaire, le plus brillant de toute l'histoire britannique avec Wellington. En plus de cette guerre de 7 ans, Amherst a aussi brillé dans la guerre de sécession d'Autriche, a réussi à prendre Louisbourg et des points chauds des Caraïbes comme la Havane. Il a été commandant en chef des armées british en Amérique du Nord, puis de toutes les armées de l'Empire. Il a été nommé Lord, Baron, gouverneur de Québec, gouverneur de Virginie, a reçu le titre de chevalier de l'Ordre du Bain, titre also British parce que les Anglais sont très propres, a bath. Whatever, humor, British. Quand il prend le contrôle du Canada, il arrête immédiatement la politique de présent donnée aux Autochtones et instaurée par les Françaises, qui est l'un des facteurs de soulèvement mené par le chef Pontiac dans les Grands Lacs, événement qui va exacerber la combativité de Amherst face aux First Nations. Dans le souci de la paix britannique, il va contaminer des tribus entières à la variole en leur distribuant des couvertures contaminées. Non seulement il est un grand stratège, mais il est un précurseur plusieurs siècles en avance de la guerre bactériologique. Une fois rentré dans la mère patrie en Angleterre, Amherst ne veut plus retourner en Amérique, qui n'est pas assez britannique pour lui. Il meurt en 1797 à l'âge vénérable de 80 ans dans le Kent, dans son domaine qu'il a appelé Montréal, dans la petite ville de Sevenoaks. Amherst est honoré partout par des monuments, des colonnes, des noms de villes au Massachusetts, au Québec, en Ontario, un collège, un parc national à l'île du Prince Edward. Mais à Montréal, ville ingrate, sa rue a été débaptisée et remplacée par un nom mohawk encore plus difficile à prononcer que la française. Adagagan. Well, dear Lord, well. C'était la Minute Coloniale présentée par les Apatrides Anonymes.
Simon, de retour en studio sur choc.ca, l'émission Les Apatrides Anonymes. Donc, cette histoire de couverture infestée à la variole pour faire de l'extermination de masse, est-ce que c'est vrai?
Ce serait un mythe?
Ben, c'est pas 100% confirmé. Par contre, il existe la correspondance authentifiée entre Amherst et un certain Henri Bousquet, mercenaire suisse dont j'ignore complètement comment il arrive dans cette histoire-là. Dans la correspondance, M. Bousquet suggère à Amherst de lui fournir des vêtements et des étoffes infestées. Et dans l'une de ses lettres, Amherst lui répond, et je vous fais une traduction maison, là, je prendrai pas d'accent british, « Il s'agit d'une très bonne idée, faites juste attention à ne pas vous infester vous-même. » Alors, on peut peut-être présumer que ça s'est peut-être pas fait pour des difficultés opérationnelles. Ça, on le saura peut-être un jour. Donc, un peu plus loin dans la lettre, Amherst poursuit « Nous ferons tout en notre pouvoir pour exterminer cette race exécrable. Extirpate this execrable race. » Donc, on poursuit dans la correspondance de Amherst à Bousquet. « Si l'Angleterre n'était pas si loin, nous pourrions lancer les chiens de chasse à leur poursuite. » Donc, on comprend qu'il n'y a pas encore de chiens de chasse dressés en Amérique. Finalement, est-ce que cette idée a été mise en application? On le saura peut-être jamais, mais on sait que c'est une idée qui lui plaisait à Amherst puis qui voulait exterminer les Autochtones. Alors, revenons au temps présent. Alors que le rapport sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées vient d'être publié. 1200 femmes dont la mort ou la disparition n'a pas été élucidée entre 1980 et 2012. Le terme « génocide » apparaît à plusieurs reprises dans le rapport et beaucoup de commentateurs et personnes politiques, souvent de droite, toujours blancs, trouvent le terme « génocide » exagéré ou se disent mal à l'aise les pauvres ou carrément refusent d'utiliser le terme « génocide ». Donc, comment ces personnes voient le général Amherst? Comment ils voient les pensionnats, les réserves, les privations, ces 1200 femmes disparues dont l'État s'est complètement foutu? Ou bref, tellement d'autres exemples dont on pourrait parler. T'sais. L'un des exemples dont on a peu parlé, c'est le phénomène des stérilisation forcée qui est encore pratiquée aujourd'hui, paraît-il. Donc, il y a eu un groupe de travail récemment au niveau fédéral et toutes les provinces, sauf une, y a participé. Marie-Ève, laquelle a refusé? Le Québec. Le groupe de travail a quand même réussi à démontrer que ces pratiques-là ont été imposées à des milliers de femmes autochtones partout au Canada et ce depuis longtemps. Donc, dans une lettre ouverte publiée en février, il y a des professeurs et des militantes autochtones qui dénoncent le gouvernement du Québec. Je les cite, qui perpétue par son silence et par son déni une attitude coloniale, en fermant les yeux et les oreilles sur des enjeux cruciaux de santé, de bien-être et sur la privation de nombreux droits humains fondamentaux. Il faut aussi ajouter qu'il s'agit de la stérilisation forcée d'une atteinte grave à l'éthique médicale. Et personnellement, j'ajouterais aussi que le gouvernement du Québec, par son attitude, perpétue le génocide en tant que tel. Donc, comment ça se passe concrètement? En gros, de deux façons, avec un consentement non éclairé ou de manière plus sournoise ou carrément dissimulée. Par exemple, le personnel de santé ou des services sociaux va évoquer des risques à la santé de la mère ou de l'enfant pour obtenir une stérilisation par ligature des trompes. Ou si on est à un autre stade, carrément va réussir à obtenir un avortement. On va évoquer des arguments du genre « Tu es seul sans le père, tu pourras pas t'occuper de l'enfant, il sera pas heureux, il va être malade, tu as tes propres problèmes, il y a un historique de maladie ou de dépression dans ta famille, etc. » La méthode plus brutale encore consiste à stériliser une femme à son insu, donc forcément sans son consentement, par exemple pendant un examen ou pendant le travail d'accouchement, sans même lui dire, ou si on lui dit en mentionnant qu'il s'agit d'une petite intervention de routine ou encore en disant qu'il s'agit d'une opération qui est réversible. Et voilà, on ligature les trompes de Fallope de la femme. D'après le rapport produit par le groupe de travail, le phénomène des stérilisations forcées des femmes autochtones reste difficile à quantifier, mais il est infligé de manière disproportionnée à des femmes autochtones et il faut mentionner aussi à des femmes vivantes avec un handicap autochtone ou non. Placé dans le contexte de génocide autochtone qui est de plus en plus reconnu et documenté, le phénomène des stérilisations forcées prend quand même un sens assez particulier.
Non, c'est clair.
On va aller sur ces sur ça, on va aller en musique avec la pièce Look East de l'artiste Equa, qui est une rappeuse de la nation Muscaudé dans l'actuelle province du Manitoba.
Sharp as knives. This is for the guys who stay up late, worry about family and the future state. This is for protectors, today's dog soldiers. Rock low, crouch with the weight on their shoulders. Talking about the ones who take care of their kids, responsible, giving them the tools to live. This is for my homies who focus on the physical, mental, emotional, but don't forget the spiritual. Even with the past that could run blood cold, you never go back when you feel that pull. But who do you turn to when it gets too much? Taught not to talk about an ego like a crutch. Silence keeps it buried, all the truth, the lies. Armor so tough to hide the anger inside. Men don't cry, attitude you inherited. You come off all smooth, but the act is transparent. Say you make mistakes, being perfect for a try. To go that far, some men would rather die. You aim, kill your pain when it doubles you over. But make sure that no one knows about it when you're sober. So look to the east where the night meets the day. Yeah, hey, hear the old ones say, bring back the will and the reason to fight. Protect us and we'll make this right. Look to the east where the night meets the day. Yeah, hey, hear the old ones say, bring back the will and the reason to fight. Protect us and we'll make this right. You're required before the storm, ruin steadily. Don't wanna ask for help cause you say you're not ready. The killer is a buildup of the secrets in the vaults. Time released when you start to admit your faults. Don't think that I'm fooled cause women see it all. Stay weak, stay humble, get up before you fall. Throw away them pills, that casino, that drink. Stop hitting your woman and drag her down while you sink. I know my man, you've had it the worst. History dealt you the raw deal first. They took away your role along with your soul and expect you to succeed, that's taking its toll. Convinced you were devils and damned you with sin. Made you look down on your own brown skin. Where's our protectors, our leaders, our fighters? Outside the bar holding bottles and lighters. Pimping us, hating us, leaving us alone. To fight against the elements that stole the home. Don't act like it's over, too late, time is done. The kids need a future warrior, daughters and sons. They'll bring back the culture that never left. And think of the woman as life, give her respect. So look to the east where the night meets the day. Yeah, hey, hear the old ones say, bring back the will and the reason to fight. Protect us and we'll make this right. Look to the east where the night meets the day. Yeah, hey, hear the old ones say, bring back the will and the reason to fight. Protect us and we'll make this right. Oh yeah, we'll make this right. And I'll tell you how. Oh, mio sin gani heel week. Mio sino ta aski gawigiak. Nasagi tempe matsu win. Nasagi wako wako muginak. Nasagi wako daisini mug. Gia now on my muskosiak. Gia now on my exosiak. Gia now on my exosiak. So look to the east where the night meets the day. Yeah, hey, hear the old ones say, bring back the will and the reason to fight. Protect us and we'll make this right. Look to the east where the night meets the day. Yeah, hey, hear the old ones say, bring back the will and the reason to fight. Protect us and we'll make this right.
Vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca et on vient d'entendre Equal, la chanteuse Equal, avec la pièce Look East. Les luttes des peuples autochtones ici et d'ailleurs pour la protection de leur territoire, desquels ils ont été brutalement chassés par des puissances coloniales, remontent à plusieurs siècles. Aujourd'hui, le pillage se poursuit non seulement par des États, mais aussi par des multinationales, principalement du secteur de l'exploitation pétrolière et minière. Donc, à quelques jours de la fête du pays que l'on nomme le Canada, On tenait à souligner la victoire d'un peuple autochtone d'Équateur, les Waorani, devant la Cour de justice amazonienne, où ce type d'exploitation, l'exploitation pétrolière fait des ravages, que ce soit la destruction de la forêt, les sources d'eau contaminées, montagnes de déchets, dispersion de la biodiversité. Les Waorani se considèrent comme les gardiens de la forêt et se sont toujours montés assez hostiles aux colons, défendant farouchement leur territoire. C'est seulement en 1958 qu'ils ont dû se plier au pouvoir central de l'État, tout en conservant quand même leur mode de vie et leurs terres ancestrales, en vivant de la chasse, de la pêche et de la collecte des fruits. Ils sont peu nombreux, moins de 5000, mais leurs terres ancestrales s'étendent sur plus de 800 000 hectares. Il faut savoir que si depuis 1990, la loi reconnaît leurs droits de propriété, l'État a gardé la maîtrise du sous-sol, là où se trouvent les pétroles évidemment, comme c'est souvent le cas dans les pays ayant une population autochtone. En théorie, les communautés doivent être consultées avant toute opération d'exploitation, même si c'est l'État qui a toujours le dernier mot. Donc, dans le cas qui nous occupe, en 2012, 1800 km² de terres Waorani sont mis aux enchères pour la vente à des compagnies pétrolières. Les Waorani étaient opposés à l'exploitation pétrolière sur leurs terres parce qu'ils jugeaient leurs droits violés, puisqu'ils n'avaient pas été consultés correctement sur le projet. Le gouvernement, lui, affirme qu'une consultation a bel et bien eu lieu, mais les Waorani affirment qu'ils ont été trompés. Ils parlent de fonctionnaires arrivés en avion avec de fausses promesses, de la nourriture et des boissons pour les convaincre. Ça vous rappelle peut-être quelque chose? Décidément, plus ça change, plus c'est pareil.
Non,
c'est
ça ne me rappelle rien.
Non, hein, pas du tout.
Il n'y avait pas des bijoux avec ça?
Et des couvertures.
Et des miroirs.
on rit, mais c'est pas drôle.
C'est pas drôle, hein?
Selon l'avocate Wajera Curipalo, qui était déléguée de la Defensoria del Pueblo dans l'État de Pastaza, qui a soutenu la demande des Waorani, l'État ne les a pas consultés, comme je le disais, et il s'est contenté d'une simple visite d'une demi-heure sur les lieux. Elle ajoute, et je cite, « Les représentants du gouvernement sont revenus chez nous pour nous proposer santé, éducation, des logements et d'autres bénéfices, mais nous ne savions pas qu'il s'agissait de nous convaincre d'accepter l'exploitation pétrolière sur nos terres. Notre territoire est sain, propre, non pollué. Nous, Pikenanis, les sages Waorani, n'accepterons jamais la vente de nos terres à l'industrie pétrolière. » Donc, face à cette situation-là, le défenseur du peuple et 16 communautés Waorani ont porté plainte et le tribunal de Poyo, qui est la capitale de l'État de Pastaza, a ainsi rendu sa décision à la fin avril en faveur du peuple Waorani. Selon le tribunal, le projet porte atteinte aux droits constitutionnels des peuples à l'autodétermination et à être consulté sur l'extraction des ressources non renouvelables dans leur habitat. Ces peuples devront être préalablement consultés de manière claire et précise chaque fois qu'un projet d'exploitation de ressources non renouvelables sera envisagé sur leur territoire. Le jugement suspend évidemment l'entrée des compagnies pétrolières sur leurs terres en Amazonie et pourrait même à l'avenir remettre en question l'exploitation des autres gisements. Le tribunal a aussi enjoint l'État équatorien de mener une nouvelle consultation publique conforme aux exigences cette fois-ci de la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui siège à San José, la capitale du Costa Rica. Cette décision constitue vraiment une première dans le pays et fait office de précédent important pour l'Amazonie, selon l'avocate Elina Maria Espinoza, qui représentait le défenseur du peuple et les 16 communautés Waorani ayant déposé plainte dans ce dossier-là. Les Waorani ont rapporté une première bataille, mais la suite, évidemment, on s'y attend, de cette affaire risque d'être longue et périlleuse, car le pétrole représente pour l'Équateur le principal produit d'exportation et génère environ 30 % des revenus de l'État. Le jugement peut faire l'objet d'un appel de la part des ministères concernés, soit ceux de l'énergie et de l'environnement, ainsi que du ministère public. D'ailleurs, les avocats du gouvernement ont déjà présenté une demande en appel. Reste que cette victoire est considérée comme historique en termes de souveraineté, de droits des peuples indigènes et d'environnement.
Est-ce qu'on sait s'il y a des compagnies canadiennes qui sont dans
non, c'est un c'est vraiment un consortium équatorien.
Équatorien, OK.
Ouais, 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 ouais. Donc, à suivre. En tout cas, on va peut-être voir là, ce qui va arriver justement avec avec l'appel. On sait pas. J'ai pas réussi à trouver si l'appel avait été, la demande d'appel avait été acceptée ou non. Mais on suivra les développements. Mais c'est quand même une rare bonne nouvelle dans le dossier des multiples luttes autochtones pour le droit et le respect de leurs droits au territoire.
Ça ressemble un peu à la décision de la Cour fédérale l'année passée.
Effectivement.
Qui avait invalidé les consultations de l'Office national de l'énergie. Ouais. Parce qu'il n'avait pas assez consulté les communautés autochtones.
Ouais.
Donc, ça,
mais ouais. Je pense que ce genre
dans
de décision-là...
Trans Mountain,
oui, c'est ouais. Ça. Mais je pense que ce genre de décision-là va créer des précédents, effectivement. Puis c'est un peu la crainte de l'État équatorien que d'autres communautés autochtones du pays suivent l'exemple des Waorani et décident de se battre devant les tribunaux contre les compagnies pétrolières et les projets d'exploitation.
Tout à fait. Les actualités internationales. Donc, je vais vous parler de... C'est plutôt mondial, on pourrait dire. Les derniers chiffres sur les réfugiés issus du rapport annuel du Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, qui est sorti la semaine passée. Donc, année record pour le nombre de réfugiés dans le monde en 2018. Un beau 70,8 millions de personnes déplacées en raison des guerres, persécutions, environnement, catastrophes naturelles et pour des raisons économiques. Donc, c'est le plus... gros chiffre de déplacés depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas plus compliqué que ça. Une guerre mondiale, ça déplace des millions de personnes, on le sait, mais là, il n'y a pas de guerre mondiale à ce qu'on sache. Il y a plusieurs guerres. Donc, 70 millions de personnes. Ça se décortique en 26 millions de réfugiés, de 41 millions de déplacés internes dans les pays et de 3,5 millions de demandeurs d'asile. Donc, c'est 2,3 millions de plus qu'en 2017. Donc, c'est une augmentation assez importante. Et on parle ici, entre autres, la forte progression des déplacements internes en Éthiopie à la suite de violences et aussi une hausse des demandes d'asile présentées par ceux qui fuient la grave crise politique et économique au Venezuela, qui eux sont difficiles à quantifier d'ailleurs. Ça, c'est deux
dont on a parlé.
Dont on a parlé il y a quelques semaines.
Ouais.
Ça, c'est deux des nouveautés, entre guillemets, là, qui ont fait beaucoup augmenter les chiffres. Mais c'est sûr qu'on reste quand même avec 5,5 millions de Palestiniens qui sont toujours déplacés depuis, dans certains cas, des décennies. Sinon, on parle de la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan du Sud, le Myanmar et la Somalie qui produisent beaucoup de réfugiés. Colombiens et Syriens sont les principaux déplacés internes dans leur propre pays. Ça, ça ne nous surprend pas non plus. Et c'est reparti à la hausse depuis 2009, le nombre de réfugiés et de déplacés, avec une forte progression depuis 2012 avec le conflit syrien, évidemment.
Oui, c'est ça.
Plus d'un demi-million de Syriens ont déposé, ceux qui ont été les plus nombreux à déposer des demandes d'asile l'an dernier, donc un demi-million de Syriens, surtout en Turquie. 340 000 Vénézuéliens ont déposé une demande d'asile aussi, qui se sont pour la plupart rendus en Colombie et au Pérou, comme on avait parlé il y a quelques semaines. 4 réfugiés sur 5 vivent dans le pays voisin du leur, donc la majorité vivent dans des pays du sud pauvres en développement, ça on le sait aussi. Les États-Unis sont en revanche le pays qui a reçu le plus grand nombre de demandes d'asile l'an dernier, suivi du Pérou, de l'Allemagne, de la France et de la Turquie. Et pour la quatrième année d'affilée, la Turquie est le pays qui héberge la plus grande population de réfugiés, 3,7 millions de personnes, suivi du Pakistan, de l'Ouganda, du Soudan et de l'Allemagne. Donc, on est vraiment dans les pays pauvres plus l'Allemagne. Et le haut-commissaire a fait un petit commentaire un peu politique à la fin de son rapport en disant qu'il a appelé les Européens à trouver une solution durable avec le fameux système de répartition des quotas de migrants. Il précise que les élections européennes sont derrière, donc il s'attend à plus de maturité et plus de raisonnabilité dans ce débat parce que c'est vraiment le moment d'affronter cette question.
Puis est-ce qu'on sait justement au niveau des réfugiés climatiques ou liés à le...
Non, ça je ne l'ai pas malheureusement. Peut-être qu'il est dans le rapport, mais c'est pas dans les articles que j'ai épluchés. Mais ça serait une bonne question parce qu'il parle surtout des guerres et des persécutions, mais on sait que les raisons climatiques sont de plus en plus présentes. Tout à fait. Fait qu'on pourra peut-être regarder pour une prochaine fois.
Simon?
Non, mais j'aimerais juste mentionner la situation particulière de la Colombie. Tu disais que c'est avec la Syrie l'un des pays qui a le plus de réfugiés internes.
De déplacés internes, oui.
Et en plus, reçoit beaucoup de réfugiés externes, donc Venezuela probablement en grande partie.
Ouais,
donc, je voulais juste souligner que ça doit être assez difficile à gérer pour les ONG là-bas puis, et pour les gens à vivre aussi.
Tout à fait. Ouais,
ben,
ouais.
En Colombie, c'est beaucoup, c'est des déplacements forcés par l'État, souvent à cause de... Ben, soit des conflits militaires, soit du développement minier, mais aussi par les soit le narcotrafic ou soit les milices paramilitaires et
oui, un mélange de guerre, ouais, de d'exploitation économique, des réfugiés extérieurs, des politiques, une violence aussi permanente.
Mais c'est intéressant quand même de voir aussi que ça vient de faire un peu le mythe ou en tout cas le discours ambiant qui dit que c'est les pays occidentaux, faut qu'ils arrêtent d'accueillir les flots de réfugiés des pays du sud. Là, ce qu'on voit en fait, c'est que c'est des déplacements, beaucoup de déplacements internes ou avec les pays frontaliers. Donc,
exactement.
La majorité c'est du sud-sud là. Tu sais, c'est pas.
Exactement.
C'est vraiment, en tout cas.
Oui. Bien sûr, quand on s'intéresse un peu à la question, on le sait, mais c'est rare que les médias en parlent de cette façon-là. Je vais compléter avec parler un peu du Canada à travers ça, parce que dans le dernier rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, il y a aussi une section sur la réinstallation des réfugiés. C'est-à-dire que la plupart des réfugiés ne veulent pas partir dans un autre pays, ils veulent revenir chez eux idéalement, ou ils s'installent dans un pays limitrophe. Mais il y a 1,4 million de réfugiés en 2018 qui avaient besoin de réinstallation, donc de vraiment de changer de pays. Et seuls 92 400 ont été réinstallés dans 25 pays. Donc sur 1,4 million qui a fait une demande de réinstallation, on a seulement 92 000 qui ont été réinstallés dans 25 pays. Le Canada a accepté 28 000 des 92 000, donc ça en fait le premier pays à en avoir accepté en nombre. C'est 30 % donc des réfugiés réinstallés qui sont venus au Canada. Les États-Unis sont deuxième avec 22 000. Donc, voilà l'idée. Le Canada arrive deuxième dans le monde pour ce qui est du nombre de réfugiés qui ont obtenu la citoyenneté. En 2018, 18 000 réfugiés sont devenus citoyens canadiens contre 10 000 en 2017. Il y a beaucoup les Syriens là-dedans qui ont joué. Donc ça, c'est des chiffres quand même intéressants à savoir par rapport au Canada. Le Canada arrive en 9e place pour ce qui est du nombre de nouveaux demandeurs d'asile, donc qui arrivent aux frontières, pas des réinstallés à partir de l'ONU. Donc 55 400 demandes déposées en 2018, dont 19 000 qui ont été interceptées par la police à différents endroits, dont le fameux chemin Roxanne, de façon dite irrégulière, entre guillemets. Mais, évidemment, quand on regarde ça, ces chiffres-là, 55 000, 19 000, les chiffres du HCR montrent que cette situation est bien loin des énormes vagues de réfugiés qui affluent vers d'autres pays. Seulement 16 % des réfugiés dans le monde se trouvent dans des pays développés. Donc, il y en a quand même 84 % qui sont dans des pays pauvres, des pays limitrophes voisins. On appelle ça des pays de première ligne dans le jargon du HCR. Donc, je vous ai dit, la Turquie, tantôt, 3,7 millions qui ont accueilli de réfugiés sur le territoire turc, actuellement beaucoup des Syriens. Le Pakistan a 1,4 millions de réfugiés aussi externes et l'Ouganda 1,2 million. C'est des pays extrêmement pauvres qui n'ont pas seulement des grosses populations comme l'Ouganda. Le principal pays d'origine des réfugiés.
Qui n'ont pas des grosses infrastructures non plus.
Ah, bien sûr, écoute, c'est ça. Ils ont un peu d'aide de l'ONU et tout ça, mais ils ont souvent des problèmes, même des guerres à l'interne.
Ouais.
Le principal pays d'origine des réfugiés en 2018 était la Syrie. Ils sont 6,7 millions de réfugiés syriens, quand même, sur les 70 millions que je vous parlais tantôt. Ils ont été accueillis dans 127 pays, les Syriens, mais la grande majorité d'entre eux sont demeurés à 85 % dans les pays du Moyen-Orient. Donc, on voit encore, ça confirme un peu les chiffres. Donc, l'article est conclu par une phrase qui vient du HR aussi. Alors que certains Canadiens s'inquiètent des migrants irréguliers, leur nombre a légèrement diminué en 2018 par rapport à 2017, et jusqu'à présent, cette année, ce taux a ralenti par rapport à la même période de l'an dernier, y compris les gens qui arrivent de façon dite irrégulière au chemin Roxham. Donc, on va en entendre parler dans la campagne fédérale. Les conservateurs et d'autres partis vont dire qu'on est envahis. Ça va être la même rhétorique. La CAQ a le même discours. Mais on voit que, quand on compare au niveau international, on est vraiment... On fait peut-être une meilleure job que d'autres pays occidentaux, entre guillemets. Mais c'est vraiment des chiffres minimes par rapport à ce qui se passe dans les pays pauvres. Et même dans notre pays, ça diminue depuis 2 ans. Donc, on peut peut-être... Je peux rapidement, un autre sujet. Oui, 3 minutes. On en parlera plus si on a besoin. Ben, la Hongrie, qui est, on peut dire, l'élève le plus...
Le cancre
ou l'imbécile de la classe, oui. Évidemment. Viktor Orban, son célébrissime président réactionnaire. Oui.
Le Doug Ford européen.
Oui, bien, même pire qu'on peut dire un mélange de Bolsonaro, peut-être aussi.
Oui, c'est ça.
Donc, le 20 juin dernier, le Parlement hongrois a adopté à 160-18 une nouvelle loi rendant passible d'un an de prison le fait d'apporter une assistante à des migrants. Donc, on est dans le délit de solidarité, on le nomme pas comme ça. Donc, le fameux Jobim, le parti d'extrême droite, s'est joint au parti Fidesz, le parti d'Orban, pour cette législation-là. Donc, les responsables d'ONG pourront désormais se voir également notifier une interdiction de s'approcher à moins de 8 km de la frontière extérieure Schengen, dont la Hongrie assume la responsabilité au nom des pays membres actuellement.
Ah oui, je savais pas ça.
Donc, les ONG qui veulent aider les migrants, on parle de, à l'extérieur de l'espace Schengen, donc c'est toute l'Europe, là,
ouais,
à peu près.
Ouais,
donc, c'est dans
européen,
la mer,
ouais.
ou c'est dans, vers la Turquie, ouais. ou vers... Bon. Et l'imposition de quotas de réfugiés par l'Union européenne a été, au passage, rendue inconstitutionnelle par cette même loi votée la semaine passée au Parlement hongrois. Peut-être vous citez Marta Pardavi de l'ONG Helsinki Committee qui dit que c'est un nouveau chapitre dans les tentatives du gouvernement pour réduire à néant l'indépendance de la société civile. Cela va nous empêcher d'assister un demandeur d'asile dans la construction de son dossier, rendre impossible nos missions à la frontière pour s'assurer que les droits humains sont respectés ou encore interdire la distribution de brochures d'informations sur la procédure d'asile. Cela nous ramène à une époque jamais vue depuis la chute de la dictature communiste en Hongrie. Donc, évidemment, la conformité en droit européen international est discutable. Ça va sûrement être contesté. Mais c'est quand même la suite de plusieurs lois qui ont été votées depuis 2015 en Hongrie. Donc, je pourrais vous citer des niaiseries. Je garderai pour une citation raciste. Il y a vraiment du bon stock d'Orban. Mais peut-être vous dire que Orban, son pays, a 10 millions d'habitants. Ils ont enregistré 3390 demandes d'asile en 2017 contre 29 000 un an plus tôt quand il y avait eu beaucoup de migrants en Europe. Et la Hongrie n'a accordé l'asile qu'à 105 personnes en 2017. Fait que je sais pas c'est quoi le problème, là. Mais, enfin. Donc, et peut-être en terminant que Budapest avait été, pour rappel, on rappelle ça dans l'article, avait été la première capitale en Union européenne à obliger les ONG à déclarer leurs ressources étrangères et à spécifier sur toutes leurs publications en lien avec les migrants qu'elles sont subventionnées par l'étranger. Ça, c'est dans la loi. Dans une loi depuis 2015, il y a eu ça. Donc, et cette annonce a été faite, ben, le projet de loi a été adopté, savez-vous quel jour?
Le fin juin pour la journée internationale des migrants.
Des réfugiés. Voilà. Fantastique, hein? Donc, vive la Hongrie.
c'était la formation musicale de Ottawa, la qui j'ai nommé A Tribe Called Red, et la pièce Burn Your Village to the Ground. Alors, le 16 juin dernier se tenait la manifestation annuelle de Solidarité sans frontières dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Alors qu'à 4 heures du matin, la même journée, la coalition Avenir Québec faisait adopter sous le baillon le projet de loi 9 sur l'immigration, éliminant du même coup les candidatures en attente de 18 000 personnes, le thème de la manifestation annuelle prenait tout son sens, un statut pour tous et toutes. Nous vous présentons aujourd'hui notre reportage de la manifestation en commençant par une entrevue avec l'une des porte-paroles de SSF. Elle nous explique ce qu'est une ville sans frontières et les revendications de Solidarité sans frontières, mais aussi ce que représente l'adoption du projet de loi 9 pour les personnes migrantes et nous rappelle l'importance de la solidarité. On est avec Hermina Hernandez, qui est porte-parole de Solidarité sans frontières. Pourquoi est-ce qu'on manifeste aujourd'hui? C'est quoi les enjeux de la manifestation aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, en fait, c'est une manif, comme tu viens de dire, qu'on fait à chaque année. Et cette année, on veut mettre en lumière, en fait, une ville solidaire, et plutôt qu'une ville sanctuaire. C'est notre vision comme Solidarité sans frontières, c'est en fait un réseau des gens, d'amis, des voisins, des collègues, ce qui on s'entraide entre nous, qui on pousse donc pour qu'il y ait une vraie ville solidaire. Et évidemment, mais notre revendication reste toujours les mêmes, mais la plupart d'une ville solidaire, c'est en fait de nous protéger, d'avoir nos services, etc. Mais on aimerait ça, que la ville soit responsable et qu'elle prenne ses responsabilités par rapport à la police. Donc, c'est que la ville vient de dire, qui vient sortir, c'est un document de 2 pages en fait, qui vise précisément à certains migrants pour leur donner un papier d'identité. Donc pour nous, c'est inacceptable, c'est pas ça en fait, ça met plus en danger aux immigrants si tu as une papier d'identification qui dit que tu n'as pas de papier, et en plus, mais ça laisse beaucoup de place au profilage racial. Donc la police, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme de déporter. Donc c'est important d'avoir des accès à la bibliothèque, à la piscine, à la santé, à l'éducation, etc. C'est super important. Mais on veut que les gens restent ici avec nous. Et donc, une vraie ville solidaire, c'est de nous protéger, d'arrêter que la police donne nos informations aux agents de services frontalières et qu'ils nous déportent après.
Évidemment, vos revendications habituelles s'ajoutent à celles de la ville sanctuaire. Est-ce que tu peux nous rappeler, c'est quoi les revendications de Solidarité sans frontières?
Oui, en fait, c'est régulariser toutes les gens qui n'ont pas de papier. C'est un statut pour toutes et tous, que c'est le nom de la manif. C'est la double peine, arrêter la double peine. Les migrants qui ont été criminalisés et après judiciarisés, donc qu'ils restent ici avec nous. La double peine, c'est une fois qu'ils étaient judiciarisés, après tu les renvoies. Et évidemment, une ville sanctuaire, ça a été toujours notre revendication depuis que Solidarité sans frontières existe.
La manifestation, ça fait plusieurs années que c'est une manifestation annuelle. Dans le contexte actuel au Québec, avec la CAQ qui est au pouvoir, avec le projet de loi 21, puis entre autres avec le projet de loi 9 qui a été adopté ce matin sous le baillon, j'imagine que la manifestation d'aujourd'hui prend une importance encore plus particulière que d'autres années pour vous?
Mais c'est une attaque frontale aux immigrants. Ils disent 18 000 dossiers, mais ce n'est pas 18 000 personnes, c'est 18 000 personnes, mais c'est toute une communauté qui est touchée, parce que les gens qui restent déjà ici avec nous, on tricote des liens déjà entre nous. Donc ça déchire nos communautés. Donc c'est une attaque vraiment frontale du gouvernement provincial pour toutes et tous les Québécois, peu importe notre origine. Je pense que c'est un contexte mondial, mais spécifiquement au Québec et au niveau provincial, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un appel aussi à nous organiser, évidemment, à nous mobiliser et à continuer à construire notre ville, que c'est à nous.
Et malgré ça, donc, est-ce que vous restez optimiste ou confiante que, justement, les gens, en tout cas, que la solidarité va prendre le dessus sur la peur et la xénophobie?
Elle a été toujours là. Elle va pas disparaître. Je pense que c'est juste maintenant qu'ils ont donné plus de visibilité aux gens qui avant avaient peur de dire des choses et faire des choses horribles, mais la solidarité a été toujours là. Il va continuer toujours avec nous et je pense qu'il faut garder l'espoir. Mais il ne faut pas juste garder l'espoir dans notre table des salons et jaser entre nous, mais il faut garder l'espoir et faire des actions aussi. Donc venir à cette manif, je pense que c'est une bonne preuve de solidarité. C'est comme ça qu'on construit une ville solidaire qui existe déjà, donc, mais que peut-être qu'on voit un peu moins par ce qui se passe, par les attaques qui se passent. Mais merci à vous.
Merci. La manifestation de cette année portait également un autre message, celui de construire ensemble une cité sans frontières. Cet appel fait écho à la décision le 5 juin dernier de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, d'abandonner le statut de ville sanctuaire qui avait été décrété par l'ancien maire de Nicodère en 2017. Bon, ça avait été décrété, c'est un statut un peu factice, là, mais...
C'était un bon communiqué de presse.
Oui, voilà. En fait, le principal objectif d'une ville sanctuaire est de protéger les personnes migrantes contre les avis d'expulsion, ce qui implique évidemment que les forces policières cessent de partager les informations concernant le statut d'immigration avec l'Agence des services frontaliers. Or, comme l'explique Rosaline Wong de Solidarité sans frontières, c'est loin d'être le cas, et plusieurs villes, dont Montréal, se limitent à donner l'accès gratuitement aux services municipaux. Devant les reculs et l'inertie des autorités municipales, il en revient donc à nous de créer des communautés solidaires.
Une dernière raison pour laquelle il y en a l'impression que les raisons pour prendre la rue aujourd'hui se multiplient par la journée, mais on voulait aussi s'adresser à la politique que la Ville de Montréal a annoncé le 5 juin dernier par rapport à sa politique d'accès aux services municipaux sans peur. L'adoption de cette politique souligne un petit gain, puisque la ville est forcée maintenant de reconnaître l'existence des personnes sans statut dans notre société, en partie avec les luttes du Comité des femmes sans statut et d'autres campagnes collectives. Pourtant, au-delà d'une simple reconnaissance institutionnelle, cette politique n'améliore pas de manière significative les conditions de vie des Montréalais sans papier. Il pourrait même ajouter de nouveaux risques pour ces dernières et derniers. Premièrement, la Ville a abandonné le fait de pousser la SPVM d'arrêter les vérifications de statut des Montréalais qui vont croiser. Alors, ça exclut de sa politique la principale source de crainte pour l'ensemble des personnes sans statut. Nous apprenions d'ailleurs que le SPVM est le corps de police canadien qui a fait le plus de vérifications de statut auprès de l'Agence de services frontaliers canadien. Et ce, de loin, par rapport aux autres villes canadiennes, et d'au moins 2 ans de suite. En effet, selon une statistique offerte par la Ville de Montréal, 71% des personnes sans statut limitent leurs déplacements par peur d'être questionnées par un agent ou une agente de police. Plusieurs de nos membres vivent quotidiennement dans la peur. Alors, la politique présentée par la Ville de Montréal est loin du principe « don't ask, don't tell », puisqu'elle l'applique partiellement. Nous rejetons l'idée que les personnes sans statut qui vivent ici à Montréal demandent surtout l'accès à des bibliothèques et à la piscine gratuitement. Ça ne change en rien la réalité qu'ils vivent. Et on demande notamment d'arrêter la vérification de statut, par exemple dans les lieux publics, notamment le métro. Alors, ça revient à nous, dans nos communautés, de créer une ville sanctuaire. C'est pas à nous de créer ça, mais nous pouvons créer une ville solidaire par nos actions. Que ce soit de limiter le pouvoir de l'immigration en offrant d'accès à des ressources que la ville, que nos gouvernements n'offrent pas à nos voisins, à les membres de nos communautés, à des personnes dans nos bureaux ou dans les centres communautaires. C'est à nous de créer ces liens et de résister à la loi d'immigration à toute occasion possible. Go, go, go! Solidarité avec les sans-papiers. So, so, so.
solidarité avec les sans-papiers.
Nous avons demandé aux manifestants et manifestantes présentes ce qui représente selon eux et elles l'enjeu le plus important en lien avec l'immigration et ce que la ville de Montréal devrait faire pour être réellement une ville sanctuaire.
Vous, quel serait l'enjeu lié à l'immigration qui est le plus important actuellement?
Bien, premièrement, comme je te dis, c'est les gens qui sont sans papiers. C'est aussi, il y a des prisons qui sont construites à Québec, à Toronto. À Toronto, à Laval, puis ils sont des gens qui sont emprisonnés. Puis ils sont des gens qui n'ont pas de papier.
Oui, qui ne sont pas des criminels.
Non, ne sont pas des criminels. C'est pour ça que j'aimerais qu'il n'y ait pas plus, il ne faut pas plus de construction de prison pour les immigrants qui sont illégaux, parce qu'ils ne trouvent pas de papier. C'est ça.
Pour que Montréal soit vraiment une ville sanctuaire, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça?
Oui, c'est premièrement faire des constructions de logements sociaux, premièrement, pour trouver des emplois pour les immigrants sans papier. Ça, c'est une chose que je pense que ça sera mieux.
C'est quoi pour les gens qui sont ici l'enjeu le plus important au niveau de l'immigration?
C'est les nouvelles lois que le gouvernement est en train de passer. Okay. Pour vraiment les combattre. Je veux dire, encore là, ils viennent de passer sur Bayon, les deux. Ce qui est inacceptable. Là, avec ce qu'ils viennent de passer comme loi, les 18 000 qui avaient déjà fait leur demande vont disparaître. Il va falloir qu'ils refassent leur demande. Ça se peut pas.
Ça serait quoi, Montréal, une ville sanctuaire pour toi?
Une ville sanctuaire, une ville pas de frontières.
Selon toi, c'est quoi l'enjeu le plus important autour de l'immigration?
L'enjeu le plus important, je pense que c'est l'immigration même. Je pense que le gouvernement du Canada aussi doit agir envers toutes les choses que ça passe, que c'est inhumain. Et je pense que l'autre chose qui est essentielle aussi, c'est le logement, l'éducation, la santé. Ils sont des choses qui aujourd'hui sont bien pénibles pour tous les immigrants. Ça, je pense que c'est l'enjeu. Mais l'enjeu principal pour moi, je pense que c'est le logement.
Montréal est supposé être une ville sanctuaire, mais bon, on sait que c'est plus ou moins le cas. D'après toi, qu'est-ce que la ville de Montréal devrait faire pour être vraiment une ville sanctuaire?
Mais je pense qu'il devrait changer toute la loi sur l'immigration en premier lieu. Et deuxième, je pense qu'il faut faire la pression, nous, à les politiciens, à les élus, parce que je pense que c'est nous qui doivent agir. Mais je pense que c'est important de faire des actions plus souvent pour changer la donne de l'immigration.
Ni frontières, ni nation. Arrêtons la nouvelle prison.
Ni frontières, ni nation. Arrêtons la nouvelle prison.
Merci beaucoup tout le monde.
L'enjeu du logement, on l'a vu, occupe une place importante dans les priorités des gens. Évidemment, surtout quand on se retrouve à recommencer sa vie à zéro. Mais ultimement, l'intolérance et le racisme, ainsi que l'appareil répressif qui entoure le processus d'immigration, que ce soit les détentions ou la collaboration entre les forces policières et l'Agence des services frontaliers, qui mène plus souvent qu'autrement à des déportations, touche vraiment au cœur du problème.
C'est quoi pour toi l'enjeu le plus important au niveau de l'immigration actuellement?
Comme tu le sais, on travaille plus avec le logement. Et je pense aussi que c'est très important qu'ils aient accès au logement, ok, sans discrimination. Et quand je parle de logement, je parle de logements sociaux et OBNL, HLM, Coop. En ce moment, on est loin de ça parce qu'il y a beaucoup de discrimination faite à partir de cela.
Pour toi,
toi, c'est quoi l'enjeu le plus important au niveau des questions de racisme et d'immigration actuellement?
Veux-tu que je te le dise? Bien franchement, là?
Vas-y.
OK. Ben tu savais qu'il y avait 3 prisons au Canada?
Oui, pour les migrants, oui.
Ouais, tu le savais?
Oui.
Ben que premièrement, qu'ils détruisent ces 3 prisons-là.
OK.
Ça serait un bon enjeu pour l'immigration au Canada. Puis le racisme. L'islamophobie, là, ben je la trouve stupide. Comme il disait que le port du voile pour les professeurs, je pensais que c'était juste pour les agents de loi, cette affaire-là. Je pense qu'un professeur n'est pas un agent de loi.
Selon toi, quel est l'enjeu le plus important entourant l'immigration?
Je pense maintenant le plus important, c'est arrêter la déportation à ce moment, parce que c'est particulièrement avec le Roxham Road et les gens qui viennent par les États-Unis, c'est pas possible pour couper la frontière, mais c'est possible pour augmenter la déportation pour arrêter les gens de venir ici.
So, what do you think Montreal should do to truly be a sanctuary city?
Oh, ça c'est facile. C'est juste, c'est pas impossible. C'est regarde la ville comme New York. C'est le flic de New York. Pas respecter la relation avec la ICE, c'est qui enforçait la déportation dans les États-Unis comme l'agence frontalière. C'est possible pour la police, pour le SPVM, par travail avec l'agence frontalière. Ça, c'est facile et c'est possible, pas avec les menaces de déportation.
Merci.
Merci.
Solidarité avec les sans-papiers.
Oui, toujours à l'émission des apatrides de Anonymes, Marielle, très bon reportage.
Merci. Il faut dire un gros merci à Simon pour le montage, quand même.
C'était très un plaisir.
C'était notre premier. C'est la première fois dans le cadre de l'émission qu'on vous présentait un reportage en direct d'un événement. Mais en tout cas, à partir sur le terrain d'un événement. Et c'est sûr que qu'on va le refaire, que ce soit une manifestation ou d'autres types d'événements. Mais en tout cas, c'est pas le dernier reportage qu'on va vous présenter.
Parfait. On va aller écouter quelques notes de musique de Elisa Pézac. Vous savez que le 1er juillet s'en vient. Aujourd'hui, on a fait un effort pour avoir des sujets et de la musique autochtone canadienne. Donc, Elisa Pézac, la pièce Carl de Mousse, et on vous revient pour le mot de la fin.
I listen to the old folks, to what they have to say. I listen to the waterfall begging for another day. I listen to an eagle cry, dying high in the sky. I listen to the call of the moose as she lies down to die. Don't you know, you gotta let me. Don't you know, can't you see? I listen to his way. I listen to the crack of the gun. I'm the one that had to pay.
listen to the deep white chant, to the drumming of the Cree. I listen to the cry of the people dying of mercury. Don't you know? God let me. Don't you know? Can't you see? Don't you know? God let me. To the whistling of the loon, I listen to the howling wolf call throughout the night. I listen to the bark of the seal. He's just a bloody sight.
Donc, Elisabeth Isaac, la pièce Call of the Moose de son dernier album. J'ai dit qu'on voulait faire un effort pour passer du contenu politique et artistique autochtone, mais c'est pas le bon terme, Marielle?
Non, vraiment pas. C'est qu'on a vraiment voulu souligner les luttes autochtones et les la création autochtone au Canada, justement à quelques jours de la fête de ce...
soi-disant pays.
De soi-disant pays.
De ce plus meilleur pays du monde.
Colonisateur.
De la Confédération. Donc, voilà. Donc, voilà, on voulait rectifier les faits. Donc, c'est le dernier micro, c'est le mot de la fin. Merci Marie-Ève, merci Simon. Nos coordonnées, notre site internet apatridesanonymes.info, notre page d'émission sur le site de choc.ca pour réécouter en balado diffusion nos émissions, il y en a 7 ou 8 là, actuellement, pour nous rejoindre par courriel apatridesanonymes@resist.ca. On vous rappelle que maintenant nous serons les jeudis soirs de 18h30 à 19h30 en direct sur les ondes de CBL de choc.ca
et ce pour tout l'été
de choix FM
jusqu'à la fin début septembre. Et quoi vous dire aussi que je suis tout déconcentré, ça n'a pas d'allure. Prochaine émission, c'est le 11 juillet, Marie-Ève.
C'est ça. Parce qu'on change de mois, là.
Change de mois, on est là jusqu'à la fin août. Donc, on a bien aimé l'émission d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de préparer et de présenter cette émission. Et on écoute quelques notes pour ceux et celles qui savent, hein. C'est Tikenja Fakoli. Hein.
Oui, qui y jouait, qui était à Montréal pendant le festival de jazz, non?
Le festival de jazz est commencé depuis ce soir, mais oui. C'est pendant les Francofolies de Montréal.
Les Francofolies, bon, coudonc. On se mélange de festival puis station. Ça va super bien. Une fin tout en douceur.
Oui, on vous aime beaucoup.
From sun and fall, na 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 na.